France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, nos expertes répondent à toutes vos questions sur la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes dans le but de traiter ou de prévenir les maladies. Depuis la plus haute antiquité, les humains utilisent des plantes pour se soigner. Néandertal, il y a 60 000 ans déjà, on retrouve des traces écrites de phytothérapie dans un texte chinois vieux de 3000 ans avant notre ère, le Pen Sao, un manuel qui décrit les plantes médicinales utilisées à l'époque, comme la cannelle ou le ginseng. Un peu plus tard, 1500 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, le papyrus d'Ebers mentionne plus de 200 plantes, comme nous le rappelle Michel Bottineau dans son guide des plantes médicinales sauvages. Plusieurs millénaires plus tard, la phytothérapie connaît un engouement grandissant auprès des Françaises et des Français. Mais attention, attention, qui dit phytothérapie ne dit pas innocuité ni effet secondaire. Ce matin, nous verrons quelles plantes utiliser pour quel usage, avec des conseils de préparation. Nos invités attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Ah, que c'est tendu. Alors n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger de salade.
On travaille dans la bonne humeur.
Ah ça oui, ah ça oui.
C'est vrai que j'ai l'impression de me sentir mieux là.
Voilà, c'est normal.
Par contre, ils sont plus ma bouche.
Ah oui, ça par contre, c'est les orties, monsieur.
On va tailler ici, hein.
Et on vient d'écouter un extrait du Palmachou. Bonjour docteur Aline Mercant, bienvenue.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous êtes médecin généraliste, phytothérapeute, docteur en anthropologie bioculturelle et vous aviez publié chez Terre Vivante un manuel de phytothérapie éco-responsable sous-titré, je l'ai sous les yeux, Se soigner sans piller la planète. Bonjour Caroline Gaillet.
Bonjour Ali,
diététicienne, bonjour nutritionniste, phyto-aromathérapeute, vous dirigez l'herboristerie Fit Essence à Aulnay-sous-Bois et vous venez de publier chez Le Duc, le grand guide de l'herboristerie pour toute la famille. Avec nous également nos chroniqueurs ce matin, le professeur Boris Ancel, bonjour.
Bonjour
en
Ali.
En pleine forme.
Voilà, en pleine forme, mais peut-être que quelques plantes pourront m'aider tout à l'heure.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali.
Ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale et très dissipé ce matin, je dois le dire. Très très dissipé.
Ouais,
docteur Aline Mercant, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est exactement la phytothérapie ? Basiquement, c'est l'utilisation des plantes dans le but de traiter ou prévenir les maladies. Mais encore...
Vous avez dit le principal, mais il faut préciser que c'est effectivement c'est un extrait d'une partie de plante. Il faut toujours être assez précis. Et ces extraits, ça peut être des extraits hydriques avec des tisanes, des décoctions. Ça peut être des poudres de plantes aussi. Ça peut être des extraits alcooliques avec des teintures, des alcoolatures. Ça peut être des huiles essentielles distillées ou exprimées pour certaines. Ça peut être des trucs très techniques comme des extractions au CO2 supercritique. Hein, il y a des termes un peu bizarres. Oui, il y a des choses très modernes aussi. Et puis ça peut être d'autres extraits, des macérats glycérinés, des huiles végétales, etc. C'est extrêmement varié. Et j'ajouterais qu'il y a aussi des philosophies très, très variées sous-jacentes. Ça peut être pharmacochimique, allopathique, ça peut être énergétique, ça peut être spagyrique, quantique. Enfin voilà, il y a plein de courants assez variés.
Et donc, on utilise en phytothérapie les feuilles, les sommités fleuries, les racines, les plantes entières, Caroline Gaillet. Et à chaque fois, on n'utilise pas ces extraits de plantes de la même manière. Une feuille, on la prépare pas de la même manière que des racines ou que des sommités fleuries.
Exactement, Ali. En fait, ça va dépendre. Donc, la partie médicinale qu'on utilise dans une plante, c'est ce qu'on appelle la drogue végétale. Et effectivement, pour venir prendre son principe actif, une fleur, c'est très délicat, donc une infusion suffira. Donc, une infusion, c'est juste on met de l'eau chaude par-dessus. Sur des feuilles qui sont aromatiques, c'est-à-dire qu'ils vont contenir de l'huile essentielle, je pense à la feuille de thym, de verveine, de sauge que tout le monde connaît. Là, pareil, une infusion suffira parce que les huiles essentielles sont assez volatiles et libèrent vite leur principe actif. En revanche, pour des racines, les écorces, je pense à la racine de pissenlit par exemple.
Ou la bardane par exemple.
Ou la bardane, tout à fait, fin connaisseur. Là, il y aura plutôt nécessité à faire une décoction, c'est-à-dire un départ à eau froide dans la casserole et on porte à ébullition la racine, plutôt 5 minutes. Alors on tient compte toujours de l'épaisseur en fait de cette partie-là. Et une fois que ça a bouilli les 5 minutes, on vient laisser infuser 10 minutes.
Rappelez-nous tout de même la différence entre une infusion et une décoction.
Une infusion, c'est ce que globalement vous faites tous quand vous mettez de l'eau dans une bouilloire, vous faites chauffer, donc votre eau monte à ébullition ou frémissante juste avant, et vous mettez cette eau chaude sur votre plante. C'est ce que vous faites avec un sachet de thé classique, et qu'on peut faire avec des fleurs et des feuilles aromatiques. Et par contre, la décoction, vous avez nécessité de prendre une casserole, donc vous mettez les plantes dans l'eau froide dans votre casserole, ensuite vous allumez le feu. Vous portez à ébullition l'eau et la plante ensemble, et une fois que ça bout, vous laissez bouillir 2 minutes, enfin vraiment pas longtemps, sur des feuilles non aromatiques, et plutôt 5 minutes sur des écorces assez épaisses, voire 10 minutes sur des plantes comme de l'aubier de tilleul, qui est assez épais. Et une fois que ça a bouilli, on éteint le feu et on laisse infuser, donc c'est-à-dire reposer dans cette eau qui est chaude, pendant 5 à 10 minutes, on filtre et là on boit.
Si je fais une décoction de thym, docteur Aline Mercant, il va y avoir énormément de pertes de principes actifs, par exemple.
Ah, en fait, on n'extrait pas la même chose quand on extrait par une tisane. Il y a certaines plantes qui sont plus actives en tisane ou en légère décoction, effectivement, pour des feuilles un peu coriaces, le thym et le romarin.
Ah, le thym, je peux faire une légère décoction avec du thym.
On peut faire une très légère décoction, de même qu'avec le romarin, on va extraire un petit peu plus. Et par exemple, pour le romarin, une tisane décoction, un peu entre les deux, là, ça sera la forme la plus efficace, par exemple, pour protéger le foie. Ou pour drainer le foie, beaucoup plus efficace qu'une huile essentielle. Donc, pour chaque indication, il y a un extrait, et je crois que Caroline l'a déjà bien montré, il y a un extrait qu'on va privilégier par indication et par organe de plante.
Thierry Lhermitte.
Alors, j'ai bien compris ce que c'était une décoction, mais alors une coction, c'est quoi
ça, voilà, c'est, vous avez dit qu'il était dissipé. Ça commence bien, comme dit le docteur Aline Mercant. Alors, merci beaucoup.
On a parlé d'herboristerie, herboristerie.
Oui,
Boris.
D'accord, merci beaucoup, vous êtes très en forme les deux là. On dirait les deux vieux du Muppet Show, restez de votre côté et laissez-nous avec les expertes. Caroline Gaillet, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'herboristerie justement?
Alors l'herboristerie, il y a deux grands courants, il y a l'herboristerie paysanne et l'herboristerie d'officine. Donc l'herboristerie paysanne, ce sont les gens qui savent reconnaître les plantes dans leur milieu naturel, qui savent les cueillir sans justement piller la planète, comme le dit le docteur Mercant. Donc respecter les spots de cueillette et ensuite transformer cela, donc les faire sécher correctement et plus ou moins les transformer, en faire des baumes, des macérats, etc. Et après, vous avez l'herboristerie d'officine, donc ce que moi je pratique, où là, on est une boutique, on a un comptoir, et donc on accueille des gens qu'on vient conseiller. En gros, pour vulgariser, c'est comme une pharmacie, sauf qu'au lieu de vendre des médicaments, on vend des plantes sous diverses formes galéniques, donc effectivement des tisanes, des gélules, des ampoules, des teintures mères, des huiles essentielles, des hydrolats, des huiles végétales, donc pour s'adapter à tout le monde, des formes avec, sans alcool. Voilà, et donc c'est un métier de conseil surtout.
Je reprends le sous-titre de votre livre, docteur Aline Mercant, « Se soigner sans piller la planète ». Ça, c'est un mantra très important pour vous, d'utiliser une phytothérapie entre guillemets « éco-responsable ».
Ben, pour moi, et j'espère bientôt pour tout le monde, de toute façon, ce sera obligatoire d'y penser, parce que on sait qu'à peu près un tiers des plantes médicinales sont actuellement en danger de disparition, entre le réchauffement climatique, l'anthropisation, et puis surtout une pression du marché qui va croissante, puisqu'on a un marché qui augmente sur certains produits de presque 15% par an, avec une demande en ressources sauvages, parce que 80% des plantes utilisées en phytothérapie proviennent de cueillettes sauvages, parce que c'est pas cher, tout simplement. Et donc, on se retrouve avec des plantes qui sont en grande difficulté, voire certaines qui disparaissent complètement. Et par exemple, l'arnica en France, ça fait 3 ans que c'est très compliqué. Et du coup, il faut trouver des solutions. Donc, ça peut être des plantes cultivées, mais ça peut être aussi de changer de plante dans certaines indications.
Un exemple concret, docteur Mercant, un exemple
Alors bon, l'arnica, j'en ai parlé, ça peut se remplacer. Pour des petits bleus des enfants, on peut faire de l'huile de pâquerette, par exemple, qui marche très bien pour ce genre d'indication. Et après, il y a une multitude de plantes qu'on appelle vulnéraires, qui ont un effet sur tout ce qui est blessure. Il y en a des centaines, en fait. Et rien qu'en France, on peut en trouver pas mal. Moi, j'utilise beaucoup le millepertuis aussi dans des indications traumatiques. Et puis sinon, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'arpagophytum, qui est une plante vraiment mondialisée. On ne sait jamais trop ce qu'il y a dans les gélules de poudre quand on fait des analyses, c'est un peu troublant, on trouve autre chose. Et en fait, on peut très bien le remplacer par de la scrofulaire noueuse, qui est une plante qui pousse chez nous, qui est abondante et qui a des propriétés très proches, avec même des composés chimiques communs.
J'adore ce nom, scrofulaire noueuse.
Ça vient d'écrouelle, parce que c'était une plante qu'on utilisait sur les abcès tuberculeux, et tous les abcès par extension, et on appelait ça des écrouelles. Et scrofule signifiait écrouelle. Donc en fait, le nom de la plante, et ça c'est très fréquent, nous donne déjà une idée de son indication.
Caroline Gaillet.
Oui, tout à fait. Moi, chez Fitessens, je suis très sensibilisée, et notamment suite à la lecture du livre du docteur Marquand, à cette question de tension sur la ressource. Moi, dans mon herboristerie, je fais le choix de ne pas vendre d'arpagophytum et justement de privilégier la scrofulaire. Là où c'est paradoxal, c'est qu'effectivement, on a une tension sur le marché parce qu'effectivement, il y a demande grandissante, mais ça reste encore moins cher d'acheter de l'arpagophytum que de la scrofulaire, alors que ça pousse en France. On soutient l'herboristerie paysanne, donc les herboristes en France qui se cassent la tête à bien faire les choses. Et ça, le consommateur, en fait, ne le perçoit pas, tous ces efforts que nous, on fait pour préserver les ressources, opter pour des alternatives françaises, mais qui nous reviennent, en fait, vachement plus cher.
Professeur Maurice Ancel, quel est le menu de votre chronique au 9 Docteur vers 11h20?
On va peut-être changer vos habitudes, Ali, vous téléphonez.
Oui.
Tout le monde téléphone. Ouais. Il y a la question des ondes 5G. Qui pose problème pour certains. Est-ce qu'on peut encore téléphoner sans risque? En fait, la réponse est oui, mais on vous donnera quelques conseils pour continuer à téléphoner sans risque pour la santé.
Thierry Lhermitte, quel laboratoire de recherche avez-vous visité au nom de la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM?
Le laboratoire d'Astrid Chevance, qui travaille sur l'évaluation des traitements de la dépression.
Vous vouliez apporter une précision sur la décoction?
Oui, parce que décoction, ça vient de décocérer, ça veut dire décuire, cuire et laisser refroidir. C'est ça que ça veut dire.
Merci beaucoup, professeur Lhermitte, pour cette précision.
France Inter.
Oh là, je crois qu'il est temps d'un petit moment de tisane.
Grand bien vous fasse.
Alors, qu'est-ce que je peux te proposer aujourd'hui? Hibiscus, guarana, ça c'est excellent pour la vitalité.
On peut faire une pause dans la musique druidique?
D'accord. Oh, on va remettre les chants tibétains.
Ali Rébéi.
Et ce matin, on s'intéresse à la phytothérapie. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Les fleurs de mauve, quand on met dans l'eau, ça fait bleu. Et quand on met un peu de citron, hop, elle passe au rose.
La magie des plantes. Depuis 2 ans, Maïté cultive dans sa ferme des plantes médicinales. Les fait sécher et les assemble ici pour en faire des tisanes.
Ça, c'est ma partie préférée. Quand on sent les bonnes odeurs. J'ai une trentaine de plantes qui servent donc à faire les mélanges. Elles sont cultivées, soit je les fais en cueillette sauvage.
La mélisse, c'est assez citronné aussi. C'est une très bonne plante pour la santé de l'estomac, surtout en couvre, pour éviter que les huiles essentielles ne s'évaporent.
Formée comme herbaliste, Juliette connaît bien des secrets pour soulager les douleurs, apaiser les tracas du quotidien. Pour elle, derrière une tisane se cache tout un savoir-faire et c'est bien plus qu'une simple boisson chaude.
La tisane, c'est quelque chose qui est très simple, mais qui est fondamental dans la reconnexion à soi. Ça nous reconnecte au vivant, à la nature, à cette part de nous-mêmes, dans l'instant présent, en fait. Donc, c'est essentiel. Il y a de la demande. Les gens, ils ont besoin de ça, à la fois dans le côté bien-être et dans les vertus des plantes.
Extrait du 19-20 de France 3 Hauts-de-France, le 23 novembre dernier. Avec nous, le docteur Aline Mercant et Caroline Gaillet, experte en phytothérapie. Comme le disait le témoin dans l'extrait du JT, la tisane, c'est bien plus qu'une boisson chaude, docteur Aline Mercant.
Ah, effectivement, c'est un contact, c'est une ingestion de plantes. Et si la plante a été cultivée ou ramassée et qu'elle est de bonne qualité, on va quelque part s'approprier un petit peu ses vertus. Et j'entendais reconnexion à la nature. Oui, c'est vrai que là, on n'est pas dans de l'alimentation ultra transformée. On est dans un contact direct avec le végétal et effectivement avec la nature. Et donc, ça peut être bien aussi de connaître la plante et pas juste d'avoir un produit. Je pense que Caroline ne me contredira pas.
Tout à fait.
Caroline Gaillet.
Oui, oui, effectivement, c'est un geste simple dans son quotidien pour effectivement remettre un petit peu de nature dans son quotidien.
Rappelons que les plantes qui possèdent des propriétés médicinales sont reconnues dans le Code de la Santé publique et elles sont répertoriées au sein de la pharmacopée française ou européenne. Dans ce cadre, qu'avez-vous le droit de vendre et de ne pas vendre dans votre boutique, vous, Caroline Gaillet ?
Ben, on a le droit de vendre tout ce qui est entre guillemets légal, et donc il y a des listes A, B et compagnie. Et puis on n'a pas le droit de vendre toutes celles qui sont réputées toxiques, donc toutes celles par exemple qui vont contenir des alcaloïdes pyrrolizidiniques, ça on n'a pas le droit. Et puis d'autres molécules où on sait que c'est neurotoxique, que c'est abortif, que c'est toxique pour le foie. Donc il y a quand même beaucoup de plantes, surtout celles qui poussent dans notre pays, qu'on n'a pas le droit de vendre. Et puis il y en a, on parlait de l'arnica tout à l'heure, qu'on ne peut vendre que, mais en usage externe, si tant est qu'on en trouve encore, et qu'on ne pourra pas prendre en interne. C'est le cas de la consoude aussi.
N'oublions pas, docteur Aline Mercant, que de nombreux principes actifs des médicaments sont tirés des plantes.
Ah oui, on évalue que presque 70% des produits qu'on trouve dans une pharmacie, c'est soit un extrait de plante qui a été soit pur, soit hémisynthétisé, on lui a rajouté des radicaux par des manœuvres chimiques, soit eux-mêmes synthétisés mais inspirés de molécules végétales, donc heureusement qu'on les a pour notre pharmacopée.
Des exemples, docteur Aline Mercant ?
Par exemple, toutes les hormones, contraceptifs oraux, traitements hormonaux de substitution pour la ménopause sont issus d'hémisynthèse sur un noyau stéroïdique, désolé pour la technique, qui est extrait de racines de yam, en fait, en général. Donc, elles sont toutes d'origine végétale. Et puis, bon, dans les très connues, il y a la digitaline, la digoxine qu'on a longtemps utilisée dans l'insuffisance cardiaque. Il y a la colchicine qu'on utilise encore dans la goutte. Et puis, il y a tous les morphiniques, en fait, qui viennent du pavot. Et ça, c'est quand même une famille majeure.
Rappelons que l'utilisation des plantes n'est jamais anodine, docteur Aline Mercant. Il existe des plantes qui ont des contre-indications quand on prend certains médicaments.
Oui, il y a pas mal d'interactions médicamenteuses et donc, alors déjà prudence pour les patients polymédiqués, les gens qui vraiment ont des traitements lourds, je pense qu'il est important d'avoir un avis par un médecin ou un pharmacien ou un herboriste effectivement bien formé sur ces questions. Et les plus connus, c'est le millepertuis par exemple, qui va diminuer l'efficacité d'un certain nombre de traitements, ça va de la pilule aux antirétroviraux dans le sida, enfin bon voilà, ça peut être vraiment dangereux.
Par exemple, Caroline Gaillet, si on prend des médicaments anticoagulants, mieux vaut éviter de se complémenter avec certaines plantes.
En fait, il y a des plantes qui effectivement vont fluidifier le sang, donc on a l'ail, on a la spérule, on a le ginkgo, on a le bourgeon de sorbier, enfin, on a quand même pas mal de plantes, donc effectivement, prudence, mélilo aussi.
Et les oméga-3 aussi, à plus de 200 mg par jour, attention, si on prend des anticoagulants, à ne pas prendre des oméga-3...
Alors c'est 2000, pas
200. C'est 2000 mg, ouais.
Ouais, les oméga-3, vous avez le curcuma aussi, qui est fluidifiant du sang et qu'on prend parfois pour soulager des douleurs articulaires, mais avec les anticoagulants, prudence.
Avec des médicaments contre l'hypertension, on va éviter de prendre de la réglisse, du millepertuis, on l'a dit, du thym à plus de 3 tasses par jour, c'est ça ?
Ouais, le thym peut être hypertenseur, tout à fait.
Ou l'ARPA Gofitum également. Ouais. Et avec un médicament qui fait baisser la glycémie, on va encore éviter le millepertuis. Donc attention au millepertuis, si vous supplémentez en millepertuis pour ses vertus antidépressives. L'éleutérocoque également, la cannelle, le gymnéna et l'olivier, on évite si on prend des médicaments qui font baisser la glycémie ?
Sur ces dernières, je modulerai le discours. En fait, c'est des plantes qui vont renforcer l'action des médicaments, mais qui ont une action quand même plutôt modulante. Avant de faire une vraie hypoglycémie avec de l'olivier, je pense qu'il y a de la marge. Néanmoins, ça va améliorer tout le fonctionnement pancréatique et puis toutes les autres comorbidités, donc toutes les autres maladies associées au diabète qu'on peut avoir. Je pense à l'hypertension artérielle et au cholestérol, puisque l'olivier travaille un petit peu toutes ces maladies dites de civilisation et que beaucoup de patients finissent par cumuler, surtout passé la cinquantaine. Donc l'olivier peut quand même être pris, mais effectivement, toujours demander un conseil auprès de gens formés, parce que parfois ça peut venir aider pour limiter en fait l'addition de médicaments. La personne en prend un, puis deux, puis ça va pas, donc on en rajoute un troisième. Parfois, si on choisit judicieusement des bonnes plantes, on va se contenter de garder que un ou deux médicaments et on va éviter cette escalade et ce sera toutefois bien.
Docteur Aline Mercant ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. On parle de désescalade thérapeutique, même d'épargne thérapeutique avec la phytothérapie. Ça nous permet de donner moins de médicaments. Alors, c'est sûr que si on introduit une plante hypoglycémiante chez quelqu'un qui est diabétique et qui a tendance déjà à faire des hypos, va falloir monitorer tout ça, suivre. Mais effectivement, ça peut nous permettre de faire une désescalade. Donc, c'est très intéressant. Là, c'est une interaction qu'on appelle positive. C'est une interaction qu'on recherche, mais il faut être prudent au départ.
Prudence également pour les femmes enceintes. Par précaution, toutes les plantes leur sont interdites. Caroline Gaillet, non? Aline Mercant?
Pas toutes, hein, après. Et puis ça dépend quelle forme. On va éviter de manière générale les huiles essentielles. Ou alors vraiment, c'est... méfiez-vous, il y a beaucoup de livres qui sont très optimistes là-dessus. Il faut être vraiment très prudent. Et il y a pas mal de plantes qui passent la barrière et qui peuvent effectivement, enfin voilà, qui vont, le fœtus va se retrouver imprégné de phyto. Et des plantes alcaloïdes, on évite. Enfin voilà, il y a toute une liste de contre-indications. Mais après, tout dépend de la forme. Tout à l'heure, on citait l'ail qui pouvait être problématique dans les hypoglycémies, c'est les compléments alimentaires à base d'ail. Mais on peut manger de l'ail. Et il faut faire la différence entre ce qu'on mange et ce qu'on prend en complément alimentaire qui est très concentré.
Oui, tout comme la poudre de curcuma. Je citais le curcuma, c'est surtout un complément alimentaire parce qu'il est très titré. Mais de la poudre de curcuma dans une sauce, une vinaigrette, pas de souci.
Tiens, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous demandent ce que vous pensez de l'utilisation des gélules de plantes et est-ce qu'elles ont les mêmes effets qu'une tisane ou qu'une décoction, docteur Aline Mercant?
Ça dépend de ce qu'il y a dans la gélule. Ça peut être une poudre de plante, et la poudre de plante, c'est souvent beaucoup de cellulose et pas beaucoup de principes actifs. Il y a des exceptions. La prêle, par exemple, c'est vraiment ça. Et dans ce cas, c'est même pas la peine de prendre une gélule. On prend de la poudre directe à la petite cuillère. Sinon, souvent, ce sont ce qu'on appelle des extraits secs. Et après, le problème, alors là, je veux reparler de la qualité. On a quand même une étude assez récente et qui correspond à ce que nous disent certaines entreprises qui font des dosages de poudre. Dans une poudre, vous pouvez pas savoir quelle plante vous avez, à moins de faire ce qu'on appelle la métabolomique. C'est hyper technique, ça coûte cher, et on a 20% de conformité sur les derniers articles, c'est 20% de conformité, c'est-à-dire quand vous achetez de la poudre en gélule, dans 20% des cas, c'est ce qui est annoncé, et dans 80% des cas, c'est soit beaucoup moins dosé qu'annoncé, soit parfois une autre plante, soit parfois des dérivés de synthèse, soit même, dans 1% des cas, des produits dangereux. Donc là, je vais dans le sens de l'herboriste, et je pense que ça va faire plaisir à Caroline, c'est mieux d'avoir de la plante en vrac, qui a pu être vraiment identifiée correctement, et on a beaucoup moins, on a 70% de conformité sur la plante en vrac et 20% sur la plante en poudre. Donc, la poudre, c'est pratique pour les citadins, plutôt que de faire une tisane, mais quand même, revenons à des choses identifiables et simples.
Caroline Gaillet?
Oui, tout à fait. Effectivement, ça coûte moins cher. Alors, la gélule, elle est plébiscitée parce que c'est pratique, c'est rapide. Mais la poudre, moi, je dis toujours, moi, je fais beaucoup de poudre dans mon herbo et je dis toujours une cuillère à café rase de poudre, c'est comme si vous ouvriez 5 gélules et ça vous coûte 5 fois moins cher, quoi. Donc, ça se touille dans un yaourt, une compote, de l'eau, une tisane et ça passe très bien.
Professeur Boris Ancel.
Ouais, je pense que c'est important de rappeler ce problème de contrôle qualité, hein, qu'on a moins avec les compléments alimentaires, qu'on n'a pratiquement pas avec nos compléments alimentaires. Et le deuxième point, c'est quand nos patients viennent nous voir, c'est extrêmement important qu'ils nous disent qu'ils prennent. Parce que on sait qu'avec les médicaments, dès que vous en prenez trois, ben vous avez des interactions forcément, et on ne sait plus trop tout ce qu'on fait. Si vous ajoutez à ça encore d'autres produits actifs, c'est important que le médecin sache ce que vous prenez.
Une question qui intéressera Thierry Lhermitte, qui est le responsable du fou rire tout à l'heure. Alexandre nous demande, existe-t-il des bases scientifiques prouvant l'efficacité de la phytothérapie? Docteur Aline Mercant.
Oui, alors il y a beaucoup d'arguments et ce qui nous manque, c'est des études randomisées en double aveugle. Je suis désolée pour le terme, mais c'est ce qui est exigé pour ce qu'on appelle la médecine par l'épreuve. C'est parfait pour le médicament, mais c'est pas du tout adapté pour la phytothérapie où on a des principes actifs multiples et quand même un petit peu variables. Mais par contre, on a quand même déjà des arguments traditionnels. On a des plantes qui sont traditionnellement utilisées et c'est d'ailleurs reconnu par le législateur pour des autorisations de mise sur le marché de produits à base de plantes. Et puis on a quand même ce qu'on appelle la pharmacognosie, c'est-à-dire qu'on identifie des principes actifs en laboratoire. On a quand même de temps en temps des études cliniques, et ça c'est bien. Et entre les deux, on a des études sur l'animal et aussi beaucoup d'études in vitro. Et tout ça crée un faisceau d'arguments, mais qui est jamais assez convaincant pour les médecins purs et durs qui nous disent à chaque fois « oui, mais il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle ». Donc on est toujours victime de ça, mais quand même. Et puis il y a une expérience clinique.
Des médecins purs et durs qui pourtant prescrivent des médicaments qui sont souvent tirés de plantes.
Oui, mais c'est un principe actif unique et standardisé, et ça peut donner lieu à des études randomisées, donc c'est compliqué le dialogue.
Caroline Gaillet.
Oui, effectivement, je rebondis sur tout ça. On a un faisceau de preuves, mais c'est jamais suffisant pour certains pharmaciens et certains médecins. C'est dommage, mais effectivement, l'expérience clinique montre que si ça marche, en fait, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit ou un effet placebo.
Thierry Vermitte.
Je vous ai entendu dire tout à l'heure, ça permet de prendre moins de médicaments. Mais néanmoins, un médicament, c'est un principe actif. Et puis, les plantes, en l'occurrence, c'est aussi un principe actif. Donc, peut-être qu'on prend moins de médicaments, peut-être autant de principes actifs. En quoi est-ce que ça... Quel est le bénéfice qu'il y a à prendre un principe actif phytothérapique plutôt qu'un principe actif médicamenteux ?
Eh bien, cher Thierry, tout simplement la naturalité ou voire l'absence des excipients. C'est qu'un médicament, moi je passe ma vie sur le Vidal à regarder. Quand vous achetez un médicament, vous achetez un principe actif dans la gélule et après vous avez souvent 8 lignes d'excipients et qui sont pour certains franchement nul, voire controversé. Je ne sais pas pourquoi les pharmaciens R&D se disent « Vas-y, on va faire un médicament, on va mettre ça, qui ne sert franchement pas à grand-chose. » Quand vous achetez une gélule de plante, quand vous prenez de la tisane, quand vous prenez une alcoolature, vous avez juste la plante et éventuellement de l'alcool ou de la glycérine pour un bourgeon macéré glycériné. Et c'est tout. Et donc, en fait, sur la façon dont ça va être métabolisé, vous avez le principe actif, donc que votre foie va métaboliser, que vos reins vont éliminer, mais c'est fait de façon beaucoup plus douce, en fait, par l'organisme, que ça ne l'est avec un médicament. Et c'est en ce sens-là. Et pareil, sur le fait des effets secondaires, il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils sont beaucoup plus rares, ils sont beaucoup plus doux, ils sont souvent réversibles à l'arrêt de la prise, contrairement à certains médicaments. Donc c'est en ce sens-là que ça reste toutefois bénéfique.
R&D, recherche et développement. Allez, en ce début de printemps, nous sommes nombreux à ressentir une grande fatigue physique. Quelles sont les plantes qui peuvent nous permettre de recouvrer la forme, associée bien évidemment à une alimentation saine et à de l'exercice physique? Qu'est-ce que vous recommandez vous, Caroline Gaillet?
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça peut être tout bêtement de l'ortie, une bonne cure ortie et romarin, par exemple. C'est très bien. Là, c'est la saison du printemps. En phytothérapie, c'est le moment de la cure de détox de printemps. On pense toujours au foie qui a vécu des excès avec les fêtes, etc. Donc le romarin, c'est une bonne plante du foie. C'est une plante tonique intellectuelle, c'est une plante tonique physique. Et on a l'ortie piquante, les feuilles d'ortie qui sont très reminéralisantes et vous faites un petit duo de ces deux-là. Si vous aimez le goût du gingembre, pourquoi pas y mettre un petit gingembre avec et vous faites un demi-litre de cette tisane à boire dans la journée.
Pendant combien de temps on fait ça?
Alors, soit jusqu'à amélioration notable, donc ça peut être quelques jours, quelques semaines. En tout cas, on évite de dépasser un mois, mais après on réajuste toujours selon les cas.
Docteur Aline Mercant, contre la fatigue physique.
Oui, qui est vraiment très fréquente. Donc, on a des plantes qui s'appellent des plantes adaptogènes. C'est un concept russe. Et le principe, c'est qu'elles stimulent la surrénale. Et on en a toute une liste. Alors, le chef de file, c'est le ginseng. Le problème, bon, c'est une plante qui est en train de disparaître, mais elle est quasiment toujours cultivée. Il y a deux types de ginseng. La traçabilité peut être un peu problématique aussi, surtout sous forme de poudre.
Juste un mot sur adaptogène, docteur Aline Mercant. C'est très intéressant, ce mot-là, adaptogène.
Eh ben, ce sont des plantes qui sont censées lutter contre les stress de toute nature, qu'ils soient physiques, mentales, psychologiques. Et on va l'utiliser. Alors, ça correspond peu ou prou au concept de médecine chinoise de tonique du qi, de l'énergie vitale. Et du coup, c'est pas étonnant qu'on retrouve des plantes chinoises dedans. Donc, on trouvera le ginseng, la rhodiole, qui est une plante malheureusement en train de disparaître. Et pareil, pour la qualité, c'est problématique.
Il y a l'éleutérocoque aussi.
L'éleutérocoque qu'on appelle ginseng sibérien. Là aussi, traçabilité quasi nulle, les plantes en train de disparaître.
Alors, qu'est-ce que vous conseillez comme plante adaptogène, docteur Aline Mercant?
mais c'est quand même un peu compliqué. Il y a le cassis, qui est quand même une belle plante européenne, tout à
les
fait.
Feuilles, hein.
Les feuilles de cassis ou les bourgeons de cassis sont très intéressants. Ça peut être de la tisane de feuilles ou ça peut être du macérat glycériné de bourgeons de cassis. En plus, c'est très bon au goût. Moi, j'aime beaucoup la gentiane.
Je
classe quand même dans les adaptogènes. Il y a quelques problèmes sur la manière de la ramasser, mais quand c'est bien fait, la plante est renouvelable. La grande gentiane, c'est la gentiane jaune. C'est une plante qui a toujours été utilisée dans les fatigues, dans les campagnes françaises, dans les montagnes françaises, c'est une plante de montagne. Dès que les gens étaient fatigués ou en convalescence, on faisait une petite cure de vin de gentiane. C'était bien tonique et ça reste toujours d'actualité. C'est une très belle plante.
La gentiane, on la prépare en infusion plutôt?
Alors, on peut faire une décoction, puisque c'est de la racine. Mais sinon, traditionnellement, c'était dans du vin. Faut dire qu'on mettait un peu tout dans de l'alcool à l'époque. Mais on peut passer par la décoction, ça marche aussi.
Donc, contre la fatigue physique, une tisane ou une décoction de romarin ortie.
Et gentiane, du coup.
Et de la gentiane, très très bien. Que recommandez-vous en cas de rhinite allergique? C'est la saison en ce moment. Quelle plante recommandez-vous, Caroline Gaillet?
Alors le plantain, c'est vraiment la plante phare, plantain lancéolé, très antihistaminique, qui va calmer toutes ces problématiques au niveau bronchique.
Ça se prend comment ?
Alors, en tisane, ça marche très bien. Ça existe aussi en EPS, qu'on trouve en pharmacie. Ce sont des formes liquides et sans EPS. Alcool. Extrait phytostandardisé. Et vous avez aussi la teinture mère, les alcoolatures de plantain qui fonctionnent bien, à raison de 30 gouttes, une à trois fois par jour, qu'on va mettre dans de l'eau. Les tisanes, ce sera trois fois par jour. Vous avez la matricaire, camomille matricaire, qui est la camomille allemande, les petites boules jaunes. C'est pas amer, contrairement à la camomille romaine. Et c'est très antihistaminique également. Et le bourgeon de cassis, dont on vient juste de parler pour la vitalité, c'est un très bon antihistaminique, en plus d'avoir cette action cortisone-like, c'est-à-dire qu'il va mimer l'action de nos corticoïdes internes et avoir cette action anti-inflammatoire sur la rhinite. Hein. Rhinite, c'est cette inflammation au niveau des voies ORL, mais aussi les démangeaisons, etc.
Docteur Aline Mercant.
Oui, alors moi j'utilise les mêmes plantes, grosso modo. J'avoue que je ne recommande pas les EPS parce que c'est cher et moins dosé qu'une teinture. Donc je préfère la teinture. J'utilise l'estragon aussi, souvent s'il y a une composante asthmatique. Et là, pour le coup, l'huile essentielle peut être intéressante à raison d'une ou deux gouttes, mais en cure courte parce qu'il y a des principes actifs qui peuvent être toxiques quand même à long terme. Et puis, j'oublie jamais de faire un petit drainage aussi quand il y a un terrain allergique. Caroline dira certainement pas le contraire. Donc avec des plantes, ce qu'on appelle le drainage, c'est un concept de phyto, mais on va drainer les émonctoires, tout ce qui élimine, et dans ce cas-là, c'est des plantes du foie qu'on utilise beaucoup.
Comme l'artichaut,
surtout,
par exemple.
L'artichaut, je pense qu'on va en parler un petit peu plus loin aussi. Et puis surtout, je m'assure que les personnes ne manquent ni de vitamine D, ni de magnésium, et on travaille sur le microbiote aussi, parce qu'il y a souvent des perturbations du microbiote chez les allergiques, et c'est toujours intéressant, et là, on a plein de plantes aussi qui ont un effet.
La plante idéale pour drainer, pour vous, c'est quoi ?
Il n'y a pas d'idéal, mais le chardon-marie, l'artichaut, et puis il y en a beaucoup d'autres.
Quelles sont les plantes qui permettent de prévenir ou de traiter l'acné, docteur Aline Mercant ?
Alors l'acné, justement, typiquement, on va commencer par un drainage, parce que très souvent, alors, il y a souvent des problèmes alimentaires sous-jacents. Il peut y avoir aussi, alors une plante qui marche très très bien quand les acnés sont liés à trop d'androgènes, trop d'hormones mâles, ce qu'on voit souvent chez les ados, c'est le gâtillier, qui est une plante assez magique parfois sur l'acné. Par contre, chez les adultes, ça peut faire diminuer la libido. Et moi, ça m'est arrivé de l'arrêter pour cette raison-là.
Redonnez ce nom de plante.
Le gâtillier, Ali, mais bon, ça dépend.
On l'attend.
Oui, l'agnochaste, tout à fait. Donc, cette plante-là, voilà, elle est extrêmement puissante. Elle marche très bien sur l'acné, mais ça peut faire baisser un peu la libido. Alors, et sinon, le houblon peut être une alternative.
Moi, je me souviens que ma mère nous donnait, quand on était ados, des tisanes à base de bardane. C'est vrai que j'ai jamais eu d'acné quand j'étais adolescent.
Bardane et pensée sauvage, oui.
Et voilà, et c'est très amer et très, très, enfin, très particulier, mais enfin, ça a été efficace sur l'acné.
Ah oui, c'est du drainage hépato-cutané.
Caroline Gaillet.
Mais c'est ça, le binôme de base après le drainage, c'est bardane, pensée sauvage. Après, l'ortie fait toujours du bien, la fume-terre aussi.
Vous aimez bien l'ortie, Caroline Gaillet.
En fait, l'ortie, on dit toujours que c'est une... En fait, vous prenez de l'ortie, vous vous trompez quasi jamais, en fait. C'est une grande médicinale, c'est un peu une reine dans les simples étant le nom des plantes médicinales, mais ortie, ouais, parce qu'en fait, elle reminéralise tout en drainant, et du coup, sur la sphère cutanée, elle est intéressante, elle est antihistaminique aussi, enfin, elle joue dans beaucoup de choses.
Et même sur les cheveux gras.
Oui.
Et est-ce qu'on peut, si on veut lutter contre l'acné avec des plantes, on peut associer ça avec un traitement médicamenteux ou il vaut mieux éviter, docteur Aline Mercant ?
Alors si c'est un traitement local, il n'y a pas de souci. Et parfois on peut même remplacer un traitement local par l'essentiel de titri, marche pas mal sur les boutons un peu infectés.
Et puis, le titri, sinon, c'est l'arbre à thé. Hein.
L'arbre à thé, oui. Ou après on peut prendre des plantes plus locales, ça peut marcher aussi. Et effectivement, sur les... Alors après quand on arrive au roaccutane, pour dire son nom, qui sont des traitements un peu agressifs, là de toute façon ça sèche tout en général. Et on peut... Par contre, on va plutôt apaiser la peau qui va être très sèche et facilement irritable dans ce cas-là.
Quelles sont les plantes que vous recommandez en cas d'eczéma
Alors, il y a le bain d'avoine. On peut faire des cataplasmes d'avoine qui sont émollients. Ça, c'est tout bête, mais ça marche très très bien. On fait un porridge, en gros, et on en met sur la peau tiède. Et ça a un effet émollient très intéressant. La matricaire aussi peut être intéressante. Moi, j'utilise
mais
beaucoup
en usage externe, hein.
En usage externe, la crème à la propolis aussi peut être vraiment intéressante, très apaisante. Des huiles végétales ou des pommades végétales de manière générale. Et en Arménie, les gens utilisent de la kélidoine, en font du beurre de kélidoine. Et c'est une plante qui est cytostatique et qui va limiter tout ce qui est squameux. Alors, on ne trouve pas en France, mais c'est amusant de voir qu'il y a d'autres solutions dans d'autres pays parfois.
Beaucoup de questions sur les bouffées de chaleur associées à la ménopause. Quelles sont les plantes que vous recommandez, Caroline Gaillet ?
Alors, la numéro 1, c'est toujours la sauge en général, les tisanes de sauge officinales, parce qu'il existe plusieurs sauges. Vous avez aussi la sclarée qui marchera quand même. Mais le
la sclarée
ficinal... Ouais, sauge sclarée ou sauge officinale. L'officinale est un peu supérieure. Après, vous avez des plantes calmantes, un peu des nerfs. Souvent, la passiflore est souvent utilisée.
Et plus globalement, à la ménopause, vous recommandez le houblon?
Oui, alors le houblon est intéressant parce qu'il va aider aussi sur le sommeil. Hein, ça reste une plante sédative. C'est une plante aussi qui agit sur l'humeur. Et souvent, on est un peu plus irritable à la ménopause. Donc, pour les conjoints, les collègues, les enfants, c'est bien le houblon. Voilà, en plus d'avoir une petite action hormonale qu'on aime bien dans le cadre de cette ménopause.
On consomme comment le houblon qu'on retrouve dans la bière?
Alors, c'est en tisane que ça existe, même si le goût n'est pas forcément transcendant. Vous avez des gélules, encore faire attention aux fournisseurs, mais qui peut être bien.
Docteur Aline Mercant, au moment de la ménopause...
Ah oui, le houblon, c'est vraiment une plante majeure pour les bouffées de chaleur, en particulier la nuit, puisqu'elle est fait sédatif. C'est les cônes femelles, en fait, qu'on va utiliser, parce que c'est une plante où il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et en fait, on va donner ça. Ça existe en alcoolature aussi, ça marche très bien, en extrait alcoolique. Et puis, il y a l'armoise vulgaire aussi. Les armoises sont très souvent... estrogéniques, et elles sont très intéressantes. Moi, j'utilise beaucoup l'armoise vulgaire. Le gâtillier aussi peut être intéressant, surtout en préménopause, quand c'est un petit peu l'anarchie et qu'il y a des déséquilibres. Ça a un côté aussi sur l'humeur. On est beaucoup plus tranquille sous gâtillier. Ça redonne un petit peu la pêche. Et puis, il ne faut pas oublier l'alimentation. C'est intéressant de manger, mais riche en phytoestrogènes. C'est-à-dire, essentiellement, on va trouver ça dans les légumineuses, et puis dans la sauge aussi qui a été citée, ou le houblon, mais qui sont pas des plantes, enfin, qui sont des plantes alimentaires, mais plutôt condimentaires. Et on va essayer de manger riche en légumineuses. Et on a aussi les graines chaudes, ce qu'on appelle les graines chaudes, l'anis, le fenouil, le carvi, qui ont des effets estrogéniques, qui ne sont pas inintéressants et qui peuvent être des épices et des condiments à privilégier dans cette période et qui ont des effets digestifs aussi.
On vit une période anxiogène en ce moment. En cas d'anxiété légère, quelles sont les plantes que vous recommandez, Caroline Gaillet ?
Alors, on va avoir l'aubépine, passiflore, mélisse, peuvent être des plantes qui vont...
L'aubépine qui est bonne aussi contre l'hypertension, hein.
Oui, alors en fait, il y a la fleur et il y a la sommité fleurie. Sommité fleurie est plutôt une anti-stress, une anxiolytique légère, voilà, et avec des retentissements sur le cœur. Hein, tous les gens qui font des hypertensions dites réactionnelles sous le coup d'une émotion vive, à permettre de calmer. En revanche, des gens qui... la fleur d'aubépine est vraiment très cardiaque et donc... on l'utilisera plus pour cela. Donc aubépine, on l'a en bourgeon. D'ailleurs, bourgeon d'aubépine, ça marche très bien. Dans les bourgeons, vous avez le bourgeon de figuier. Sur stress, angoisse, anxiété, ça fonctionne très très bien avec un petit goût de figue qui est très apprécié par les clients en général. Les camomilles peuvent être bien, la lavande peut être bien, alors la lavande en tisane, mais aussi en huile essentielle, à venir respirer tout simplement ou s'en mettre deux petites gouttes dans le creux des poignets.
Voilà. Docteur Aline Mercant.
Alors moi je rajouterais, mais vous savez, j'ai une favorite, une chouchou qui s'appelle l'agripaume.
Ah oui.
J'adore cette plante. Elle a un peu les mêmes indications que l'aubépine. Elle marche bien aussi quand il y a des palpitations le soir et qu'on a du, voilà, au moment de s'endormir, ça tape dans tous les sens sur cœur sain, évidemment. Et puis je rajouterais le bavot de Californie, qui est assez intéressant quand on est anxieux aussi. Et une plante que j'adore, qui est le millepertuis. Hein, s'il n'y a pas de contre-indication, pas d'interaction, c'est pas que dans les dépressions, c'est aussi dans les syndromes anxieux. Elle a un côté apaisant qui est vraiment intéressant.
L'agripaume, ça s'écrit A-G-R-I-P-A-U-M-E, c'est ça ?
Oui, et son petit nom latin, c'est Leonurus cardiaca. Donc elle aussi, elle nous dit qu'elle est bonne quand il y a aussi une problématique cardiovasculaire associée.
Allez, il est 10h46, l'heure de retrouver Quoi de neuf, docteur, de Boris Ancel.
Ah voilà, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur ?
Sur France Inter.
Alors, professeur Boris Ancel, sur les ondes 5G, comment téléphoner sans prendre de risques pour la santé ?
Alors effectivement, cette question elle revient sans cesse, notamment de la part de mes patients, de mes amis, et je comprends, parce que dans l'imaginaire collectif, ondes, ça rime souvent avec danger. Alors on va faire le point sur ce que dit la science, pas de rumeurs, pas de peur et surtout, on va voir comment utiliser son téléphone portable sans se mettre en danger.
Alors avec l'arrivée de la 5G, on en a beaucoup parlé, parfois avec des propos très alarmistes.
Absolument, on a entendu tout et n'importe quoi. Et même que la 5G aurait été la cause du Covid. Bon, en 2021, l'ANSES, notre agence nationale de sécurité sanitaire, a publié un rapport sur la 5G. Leur conclusion, eh bien, les données actuelles ne montrent pas d'effets sanitaires nouveau ou spécifique à la 5G par rapport aux générations précédentes, la 4G, la 3G. Mais attention, pas plus dangereux que le passé, ça ne veut pas dire sans impact possible. Et d'ailleurs, l'ANSES reconnaît qu'il existe encore des incertitudes, notamment sur des effets biologiques à long terme. Résultat, elle recommande de continuer à surveiller. Et il y a un consensus avec d'autres autorités sanitaires internationales, notamment l'OMS qui, via son centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, classe les radiofréquences, donc notamment la 5G, comme peut-être cancérogène pour l'humain. C'est le fameux groupe 2B, puisqu'il y a un classement des risques. Et attention, ce groupe ne signifie pas que l'effet est prouvé. Il regroupe les expositions sur lesquelles on a un doute, mais avec un niveau de preuve limité. À titre d'exemple, c'est la même catégorie où figurait le café jusqu'à ce qu'il en soit retiré en 2016. C'est la preuve que cette classification est évolutive et elle n'équivaut pas à une condamnation.
Et on a tous l'expérience de l'oreille qui chauffe lors d'un long appel. Est-ce qu'on doit s'alarmer, professeur Ancel ?
Ouais, c'est une situation fréquente. C'est vrai qu'il y a un échauffement des tissus qui est dû aux ondes, mais très faible, de l'ordre d'un dixième de degré. Et ça, ça ne peut pas expliquer ce qu'on ressent quand ça chauffe. La chaleur ressentie, elle provient surtout du téléphone lui-même, de sa batterie notamment qui chauffe, et du contact prolongé avec l'oreille. Donc il n'y a pas de phénomène de cuisson du cerveau, contrairement à certaines idées reçues.
Alors, en pratique, si on veut adopter le principe de précaution, qu'est-ce que vous pouvez recommander ?
Alors, l'état actuel des connaissances, on n'a pas montré un risque avéré lié à l'usage normal des téléphones. L'usage normal. Cependant, comme vous le dites, il y a un principe de précaution qui s'impose et qui justifie l'adoption de certains réflexes très simples pour limiter, au cas où, notre exposition quotidienne aux ondes. Premièrement, privilégier le kit main libre pour les appels, surtout s'ils sont longs. Deuxièmement, éviter les conversations prolongées lorsque la réception est mauvaise. Vous savez, quand il y a peu de barres sur votre écran de téléphone, parce que le téléphone émet alors plus puissamment. Troisièmement, limiter les appels en déplacement rapide, comme dans les transports où le téléphone doit constamment ajuster sa puissance. Quatrièmement, la nuit, pas besoin de téléphoner, éloignez le téléphone de votre tête ou utilisez le mode avion qui coupe les émissions d'ondes. Et puis, dernière chose pour les enfants dont l'organisme est en développement, modérer l'usage et autant que possible retarder l'âge du premier portable. Alors, ces précautions complètent les normes qui sont données, comme le DAS, qui est une norme qui permet de limiter la vente de certains téléphones. Ça encadre les niveaux d'émissions des appareils qui sont vendus. Voilà, vous trouvez les références de cette chronique, comme d'habitude, sur le site de France Inter.
Dans un instant, et on peut retrouver tous les épisodes de Quoi de Neuf Docteur sur l'appli Radio France et vos vidéos également sur les réseaux sociaux, les vidéos France Inter. Thierry Lhermitte, ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous avez visité un labo. La santé mentale est la grande cause nationale 2025. C'est pourquoi vous vous êtes rendu à l'Hôtel Dieu à Paris pour rencontrer une équipe du CRES, le Centre de Recherche en Épidémiologie et Statistique de l'Université Paris-Cité avec l'INSERM. Et vous avez été accueilli par les professeurs Philippe Ravaux et Isabelle Boutron, qui lui a succédé à la tête du centre depuis peu et qui dirige aussi l'équipe Méthodes. C'est dans cette équipe que la docteure Astrid Chevance poursuit ses recherches. Elle est psychiatre, chef de clinique en santé publique, enseignante et chercheuse. Et sa thèse a été financée par la FRM de 2017 à 2020. Alors, sur quoi travaille-t-elle, Astrid Chevance ?
Alors, l'équipe cherche à améliorer l'évaluation des traitements dans les maladies chroniques. Et Astrid développe ses recherches dans le champ de la dépression.
Alors, pourquoi est-il important de mieux évaluer les traitements des maladies ?
Parce que cette évaluation a peu changé depuis 50 ans et elle reste perfectible. Alors, comment évalue-t-on un nouveau traitement ? Eh bien, on réalise des essais cliniques randomisés, c'est-à-dire dans lesquels le traitement à l'essai et le traitement témoin sont répartis aléatoirement entre les patients. Ensuite, des spécialistes font la synthèse de ces essais pour élaborer des recommandations. Mais il y a des écueils. Pourquoi ? Les patients inclus dans les essais cliniques sont souvent assez différents des patients traités en vie réelle. Il y a par exemple moins de femmes et de personnes âgées. Autre problème, on mesure un effet moyen du traitement qui ne tient pas compte des différences de réponse entre les patients. Et on n'évalue pas non plus l'effet cumulé des médicaments chez les patients avec plusieurs maladies chroniques qui ont donc d'autres traitements en même temps. Et enfin, la production des connaissances et le développement des nouveaux médicaments qui s'accélèrent chaque année, la synthèse des résultats peut difficilement se faire en temps réel. Faut dire qu'il y a 35 000 nouveaux essais cliniques dans le monde chaque année. Résultat, les recommandations pour la pratique clinique sont souvent en retard par rapport aux avancées scientifiques et elles ont du mal à répondre aux besoins individuels des patients.
Et donc, cette équipe veut proposer des méthodes innovantes d'évaluation des traitements.
Exactement, en repensant la manière de réaliser des études. Par exemple, en faisant participer les patients et leurs proches dès la conception des études, c'est la recherche participative. En exploitant l'énorme quantité des données disponibles issues des hôpitaux, des essais cliniques, des capteurs des patients, etc., qui sont sous-utilisés aujourd'hui. Donc, au lieu de tirer des conclusions de quelques centaines ou milliers de patients inclus dans les essais cliniques randomisés, l'idée, c'est d'étudier aussi les données en vie réelle de millions de gens traités et d'en faire une synthèse en temps réel. Alors, pour faire cela, l'équipe regroupe des cliniciens, des statisticiens, des mathématiciens, des informaticiens. Et son ambition, c'est de déterminer dans une maladie donnée la thérapie la plus adaptée pour un type de patient particulier à intenter, c'est-à-dire aller davantage vers une médecine de précision.
Et c'est dans cette optique qu'Astrid Chevance travaille à l'évaluation des traitements de la dépression.
Ben oui, parce que la dépression, c'est un vrai sujet de santé publique, puisque c'est le trouble mental le plus fréquent. Un Français sur cinq est touché au cours de sa vie. Alors, durant sa thèse, la docteure Chevance a réalisé une enquête internationale à laquelle ont répondu 3000 personnes d'une cinquantaine de pays, des patients, des proches de patients et des soignants. L'objectif, c'était de comprendre précisément leurs attentes vis-à-vis des traitements de la dépression. Et en analysant quelques 9000 réponses, elle a identifié 80 domaines d'intérêt mesurables, dont une grande part ne sont jamais évalués dans les études, alors même qu'ils constituent des objectifs importants pour les patients et leurs proches. Et à l'aide de ces témoignages, Astrid Chevance a réalisé un dictionnaire de la dépression qui a été publié dans un journal international et qui est utilisé par les professionnels. En parallèle, elle a recensé et analysé tous les critères de jugement utilisés dans les études qui évaluent le traitement de la dépression. Son objectif maintenant, c'est de les compléter à l'aide des attentes principales des patients, de manière à élaborer de nouveaux critères qui permettront de mieux évaluer les thérapies de la dépression.
Et toutes les personnes concernées par la dépression, diagnostiquées ou non, peuvent participer à l'étude en cours ?
Eh oui, parce que le professeur Ravot a développé une plateforme qui réunit des patients atteints de maladies chroniques, dont on avait déjà parlé ensemble pour l'endométriose. Ça s'appelle Compare. Et il y a 5600 personnes déjà inscrites pour la dépression et l'objectif, c'est d'arriver à 10 000. Donc, si des gens qui nous écoutent veulent participer en répondant à quelques questions, c'est accessible en ligne sur compare.aphp.fr et ça contribuera à faire avancer ses recherches pionnières sur la dépression. Et par ailleurs, Astrid Chevance a d'autres cordes à son arc. Elle a réalisé « Et toi, ça va ?», qui est un excellent court-métrage de sensibilisation à la dépression qu'on peut voir sur YouTube ou sur le site de la Fondation Pierre Deniker. Et enfin, elle a dirigé un ouvrage collectif excellent, lui aussi intitulé « En finir avec les idées reçues sur la santé mentale et la psychiatrie ». C'est paru en 2002 aux éditions de l'Atelier et je vous le recommande chaudement.
Et le labo d'Astrid Chevance salue l'annonce faite par Nicolas Demorand sur sa bipolarité.
Absolument.
Comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM ?
Eh bien, sur Internet, en donnant sur frm.org.
frm.org.
Ou si vous voulez donner 10 euros, envoyez le mot « don » au 92-300 et vos 10 euros sur votre facture téléphonique s'iront directement dans les laboratoires de recherche.
92-300 DON. Merci Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. Merci beaucoup Aline Mercant. On peut lire avec profit le manuel de phytothérapie éco-responsable chez Terre Vivante. Merci Caroline Gaillet. Je recommande le grand guide de l'herboristerie pour toute la famille chez Le Duc. Vous reviendrez parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on n'a pas pu traiter ce matin.
Grand bien vous fasse. Podcast France Inter.